Oui, Méphibosheth, c'est quelqu'un qui, par grâce, il a accepté ce rendez-vous avec David. Et c'était pour nous, c'est pareil, c'est la même chose pour nous. Et là, je vais vous parler de ce Dieu d'amour. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Est-ce que Dieu, il est vraiment amour? Et on va parler de ça ce soir. Et c'est très important. Si on arrive à comprendre ce message, notre vie chrétienne va être beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce Dieu-là, il est avec nous. Alors, Dieu est amour. Alors, en grec, c'est-à-dire, il est sans condition. Hein? C'est un amour sans condition. Dieu nous aime, point. Et ça, j'aime bien. Hein? Il n'a rien à rajouter. Dieu nous aime. L'amour de Dieu n'est pas un amour humain qui grandit selon les circonstances, selon son humour du moment ou sa projection de l'atmosphère. On peut souvent se poser des questions sur ce sujet quand on vit dans nos émotions et non sur la parole, hein, de Dieu. Dieu, est-ce qu'il nous aime vraiment? Souvent, on peut se poser cette question. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourtant, j'ai rien d'attirant. Hein? Je le sens pas des fois. Je sens pas que Dieu m'aime. Ou peut-être j'arrive pas à l'exprimer. J'ai bien l'impression que Dieu ne m'aime pas. Vous savez, c'est des expressions souvent qu'on a. Pourquoi Dieu m'aimerait de toute façon? Je suis qu'un homme. Lorsque je suis dans la chair, centré sur moi et sur mes besoins, perdu dans mes pensées, mes craintes et mes doutes, m'aime-t-il encore? Hein? Méphibosheth, il était peut-être dans ce cas-là. Est-ce que David, il m'aime vraiment? Il me fait s'asseoir à sa table, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Et nous, c'est la même chose. Et quand je m'enfonce orgueilleusement dans ma folie de mes raisonnements, quand je me laisse dominer par l'égoïsme de mes besoins charnels, que je suis étouffé par les détails de la vie, m'aime-t-il encore? Tous ces détails qu'on a, la vie n'est pas simple, hein? Vous le savez. Et on a plein de détails dans nos pensées, plein de détails. On se lève déjà le matin, on est bourré de détails. Et est-ce que Dieu m'aime encore là, dans tous ces détails-là? On va lire dans 1 Jean 4 au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Il est allé aussi loin qu'il a donné son propre Fils à la croix. Ça, c'est un amour. Que faut-il entendre par victime expiatoire? Que veut dire cette victime expiatoire? Dans 1 Jean 2 au verset 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le mot expiatoire qui apparaît dans la Bible est lié au sacrifice de Christ pour nos péchés. Il faut le savoir. Il est clair, d'après les Écritures, que le salaire du péché, c'est la mort. On voit ça dans Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, verset 24, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà la solution pour l'être humain, pour qui nous sommes. Nous sommes des hommes, des femmes charnelles, des fois. Hein, on a des difficultés dans nos pensées, dans nos actions, dans nos réactions. Hein, on reçoit une mauvaise pensée, on reçoit une mauvaise projection, et puis tout de suite, c'est le déluge qui se passe. Donc voilà, nous sommes faits comme cela. Et le mot rédemption signifie rachat, libération. On a été racheté et libéré par cette grande chose que Dieu a fait. Jésus-Christ est allé à la croix, il a versé ce sang. Et ce sang représente le pardon de tous nos péchés. On a été racheté de l'esclavage du péché et on a été libéré. Waouh ! Si Jésus s'est fait homme, c'est incarnation, c'est pour pouvoir nous racheter. C'est la rédemption. C'est le mystère de la rédemption, ce mystère. Et ça, c'est un vrai mystère, quand on sait que Jésus-Christ, il est allé jusqu'à la croix, il a versé ce sang pour nous. Et on peut se dire, des fois, je me suis posé la question, mais qui je suis, Seigneur ? Moi, je vous assure que j'étais le pire de toute ma famille. J'étais le gars qui obéissait pas à mes parents, j'étais toujours dehors, je faisais toujours les 400 coups. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi à moi tu es venu me chercher ? Mon frère, c'était le tip-top, quoi. Toujours de la cravate, toujours le gars bien, tout ça. Non, il est venu me chercher, moi. Waouh ! Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Une grâce incroyable. Quand j'ai découvert ce Dieu vivant, c'est Dieu, je voulais absolument que tout le monde le sache. Mais Jésus, mais c'est ça la réponse. Waouh ! Mais alors ? Waouh ! Il y a une idée qui m'est venue à la tête. Je dis, mais alors, il faut que toute ma famille reçoive ce Jésus. C'est la solution pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à Noël ? J'ai offert une Bible à chacun. Je dis, waouh ! Mais c'est ça ! Non, ils vont commencer à lire la Bible, mais ils vont découvrir ce Jésus que je viens de découvrir. Mais pour moi, c'était incroyable. Alors à Noël, mon père, il ouvre le premier cadeau, une Bible. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Deuxième cadeau, une Bible. Dehors. Et nous, on est italiens, donc nous, la famille, c'est très sacré. On est très famille. Et là, mon père me dit d'aller dehors. Et que c'est fini. Et pendant 10 ans, on n'est pas rentré dans notre famille. C'était incroyable. 10 ans. Pourquoi ? Parce que simplement j'ai annoncé ce Jésus libérateur, ce Jésus créateur, ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui est mort pour nous. J'ai annoncé ce Jésus, ils ne l'ont pas accepté. Comme Jésus quand il est allé chez lui aussi, chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Éphésiens 2 au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. » Ne cherchez pas à comprendre, mais pourquoi Seigneur tu m'as sauvé à moi ? C'est par grâce, c'est gratuit. Ne cherche pas à comprendre, tu ne comprendras pas. Moi, j'ai essayé de comprendre. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi moi, Seigneur, tu es venu me chercher ? Je n'ai pas compris. Encore aujourd'hui, je n'ai pas compris, mais c'est par grâce. Et voilà, il m'a aimé. Voilà, il m'a sauvé. Waouh ! Ça, c'est de la richesse. Le don de son Fils. Jean 3, 16, on connaît. Car Dieu a tant aimé le monde, ce Dieu-là, ce Dieu d'amour. Il a aimé ce monde. Qu'il a donné son Fils. Est-ce que tu donnerais ton fils, ta fille, en sacrifice pour les autres ? Je ne crois pas. Et lui, il l'a fait. Il l'a fait. Afin que quiconque, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset aussi Jean 15 au verset 13. Il n'y a pas de plus grand salut, de plus grand amour que de donner son fils, sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus que ça. C'est un grand amour, l'amour de Dieu. Et pour le monde entier qu'il ne méritait pas. Il n'y a rien, on ne méritait pas l'amour de Dieu. Et pourtant, lui, il s'est donné. Il a donné son fils. Il s'est donné pour ce monde qui méritait rien, qu'on méritait rien. Et il l'a fait. Romains 5, au verset 6. Là, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au moment marqué, est mort pour les impies. À peine mourit-on pour un juste, mourrait-il pour un homme de bien ? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu quand nous étions des pécheurs. On était dans le péché. Il est venu et il nous a sortis de là. Quelle richesse, hein ? Quelle grandeur. Et là, on peut réfléchir un peu à tout cela. Parce que sans lui, aujourd'hui, on ne serait pas là. Sans lui, on n'aurait pas une communion fraternelle. Sans lui, on serait perdu. Mais on sait où on va. Et c'est ça qui est incroyable. Le jour où on va partir, on sait où on va. Quelle richesse. Il est, selon sa nature, il est infini. Il veut dire, ce terme, qu'il existe en dehors de l'espace et du temps et n'est pas limité par eux. Il est donc sans limite. Dieu est sans limite. Cela nous fait penser à son omniscience, omnipotence et omniprésence. L'omniscience signifie que Dieu sait tout, qu'il a une connaissance infinie. Omnipotence signifie que Dieu est tout-puissant, qu'il a une puissance infinie. Et omniprésence, il est présent en tout lieu. Ce Dieu, c'est incroyable hein, quand même, qu'on connaisse ce Dieu-là. Qui nous sommes des êtres humains ? Ça me fait penser une fois, je ne sais pas si je dormais ou je ne dormais pas, mais ça m'a fait penser à une fourmilière, grosse fourmilière, et puis nous, j'arrivais là devant la fourmilière et je voyais toutes ces fourmis là. Je dis waouh, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui sortent, qui rentrent de partout. Je dis waouh, et comment ils doivent me voir ? Immense, c'est. Et je dis waouh. Et quand je pense, moi, je dis mais j'étais là et que Dieu me voyait comme cela. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu connaît chaque être, chaque fourmi. Il nous connaît chacun individuellement. C'est incroyable quand on pense ça. Et Dieu connaît chaque point de chacun. C'est une folie. Et j'ai été béni, j'ai dit waouh, mais tu es ce Dieu-là. Ce Dieu hein, qui est infini, éternel. Il est éternel, voyons. Éternel, c'est Yahvé, celui qui est, celui qui était, qui est et qui sera. Il n'y a ni commencement et ni fin. Notre Dieu est immuable. Cela signifie qu'il ne change pas, ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans son plan et ni dans ses promesses. Ça, c'est bon à savoir, hein ? Qui dit une chose, il va le faire. Il reste toujours. Nous, on peut manquer. On peut manquer les promesses qu'on fait peut-être à des amis. Mais lui, il a promis, il va le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Dans Jacques 1, au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ni changement, ni ombre de variation. C'est ça, notre Dieu. Il dit une chose, il ne va pas changer. D'accord ? Hébreux 13, au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était, il est, il sera. Hein ? Il était gentil avec nous, il a été jusqu'à aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas pour demain. Il sera la même chose. Il t'aimera pareil. Il t'a aimé, il t'a soutenu jusqu'à aujourd'hui, mais il va te soutenir demain. Et il va t'emmener jusqu'au bout, jusqu'à l'éternité. Tu le crois ? Amen. Il faut le croire. On a un Dieu qui est comme ça. Un Dieu qui nous aime. Et ce Dieu-là ne peut pas mentir. Dans Hébreux 6, au verset 16, Or, les hommes jugent par celui qui est le plus grand d'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec une évidence aux héritiers de la promesse d'immuabilité de sa résolution, intervient à un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà des voiles, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. J'ai bien aimé le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme qui est sûre et solide. Pourquoi ? Parce qu'on s'appuie sur un Dieu qui est sûr et solide. Un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est là toujours. Et la nuit, le jour, il est toujours présent. Et c'est ça que j'aime de ce Dieu qui est incroyable. Dieu a toujours aimé sa création. Cantique des Cantiques, 2 au verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui se cache dans la paroi escarpée, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Hein, Dieu est près de nous. Il veut nous voir, il veut nous entendre. Il aime quand on passe du temps avec lui. Il aime quand... moi, j'aime bien me lever la nuit où il n'y a personne et il est là. Je sais qu'il est là. Tu n'as pas besoin de le ressentir, Dieu. Il est là, c'est sa promesse. Il dit qu'il est toujours là, toujours présent. Donc, il est là. Je dis, Seigneur, je sais que tu es là et je suis là. Et là, il y a une communion qui se fait. Waouh. C'est beau hein, de connaître ce Dieu-là. Hein. Nous ne pouvons rien faire pour qu'il nous aime davantage. Il nous aime d'un amour infini. On n'a rien à faire pour qu'il nous aime plus. Il nous a choisis. Et c'est ça, ça c'est intéressant. Dans Jean 15 au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père, en mon nom, je vous le donne. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Ce qu'il nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est le top du top. Hein. Et c'est là qu'on va voir l'amour de Dieu. C'est quand on va se voir, les gens ils rentrent et ils nous voient qu'on s'aime de l'amour du Seigneur. Ça, c'est la force. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu nous aime ? Ce n'est pas parce que nous sommes forts ou que nous avons de la valeur en nous-mêmes ou que nous sommes puissants ou capables. Ce n'est pas parce que nous faisons mieux que notre voisin. Ce n'est pas parce que nous faisons de notre mieux. En fait, cela, ça ne veut rien dire. Cela procède à lui uniquement. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Si on fait mieux ou on ne fait pas mieux, si on fait mieux que notre frère ou pas mieux que notre frère, non, ça ne dépend pas. C'est uniquement cela procède de lui-même, lui uniquement. Rien du tout de ce que nous pouvons faire ne peut pousser Dieu à nous aimer davantage ou à ne plus nous aimer. Il va toujours nous aimer, c'est sa nature. C'est ça qui est incroyable. Ce n'est pas le fait qu'on va essayer de faire mieux. Ah, aujourd'hui, je vais lire ma Bible un peu plus. Je vais étudier un peu plus. Je vais prier un peu plus. Et je sais que Dieu va m'aimer un peu plus. Non. Dieu nous aime, point. On a vu ça. Et ce point-là, c'est fini. Il n'y a rien d'autre derrière. Dieu nous aime. Est-ce que vous pensez que Dieu vous aime ? Dieu nous aime. Qu'est-ce que fait Dieu pour nous aimer? Ce n'est pas parce que nous sommes forts comme on a vu, hein, mais Dieu est, il reste, comme on a dit, il reste fidèle à ce qu'il a dit. La preuve ultime de l'amour de Dieu, c'est son engagement envers sa créature. Il s'est engagé. Il s'est engagé à nous aimer. Incroyable ça. Ce Dieu Tout-Puissant s'est engagé à nous aimer. Et on peut dire chaque prénom qui est ici. Dieu t'aime d'un amour et il s'est engagé à t'aimer. Il s'est engagé à nous aimer à chacun. C'est incroyable. Deutéronome 7 au verset 7. Ce n'est point parce que je vous ai surpassé en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Il a un serment qu'il a fait, c'est de nous aimer. Et rien, je vous assure que rien ne peut enlever ce serment que Dieu a fait pour nous. Il nous aime, un point, c'est tout. Et il s'est incarné, il s'est fait homme, il s'est attaché à nous, il s'est engagé éternellement envers nous. Il a choisi de nous aimer inconditionnellement. Et son amour ne périra jamais. C'est beau d'entendre ça, hein? Je répète cela parce que c'est tellement important. Il s'est attaché à nous. Un Dieu, il nous aime tellement qu'il est attaché à nous. Il s'est engagé éternellement envers nous. Ce n'est pas que sur cette terre. Hein. Sur cette terre, il s'est engagé, mais il s'est engagé éternellement. C'est-à-dire qu'il va nous emmener jusqu'à l'éternité et après, pour toute l'éternité, il s'est engagé. Et sur cette terre, on va juste un laps de temps, on passe hein, 80, 100 ans pour... Hein, mais voilà, et Dieu s'est engagé envers nous. Il a choisi de nous aimer inconditionnellement et son amour ne périra jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. 1 Corinthiens 13, au verset 8. L'amour de Dieu ne meurt jamais. Son amour ne meurt jamais. Psaume 91, au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Des mille tombent de ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur ses mains. Et de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur les aspics. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de tout le long des jours, et je lui ferai voir mon salut. » Waouh ! Incroyable, ce Dieu qui est là, près de nous, et qui nous garde. Le grand sujet est la préscience de Dieu, dans 1 Pierre 1 au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Hein? Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, on peut louer ce Seigneur, hein, parce que là, son amour est tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Et pour... Dieu nous aime et s'est engagé envers nous jusqu'au bout il a déjà tout accompli. Quelle sécurité, quelle assurance. Son amour est vrai, puissant, transformant notre vie, bien que nous le sentions pas toujours, que nous en doutions souvent, il est là, à l'œuvre, dans le secret de nos cœurs. Waouh! Je vais répéter cela parce que c'est tellement important de savoir que Dieu est toujours présent, toujours là. Il veut le meilleur pour nous. Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Dieu nous aime et s'est engagé envers nous jusqu'au bout. Il a déjà tout accompli. Quelle sécurité, quelle assurance. Son amour est vrai, puissant, transformant notre vie, bien que nous le sentions peut-être pas toujours, que nous en doutions souvent, et il est là, à l'œuvre, dans le secret de nos cœurs. Wow. Et Philippiens 1 au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je suis persuadé que celui qui a commencé, et on sait que c'est Dieu qui nous a appelés, donc il a commencé une œuvre envers nous. Et cette œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On le verra face à face. Alors, ne nous prions pas de mettre en lui notre espérance, de l'aimer par la foi, de reconnaître en lui notre plus grand trésor. Il est notre plus grand trésor. Et pour terminer, et rappelons-nous dans Jean 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et là, il faut s'en rappeler. Hein, c'est lui qui nous a choisis. Donc, c'est lui qui va nous garder. C'est lui qui nous a choisis, donc c'est lui qui va nous emmener jusqu'au bout. Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Waouh, belle promesse, hein ?